Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manilakis à la présentation de cette édition du lundi 23 août 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Tchad, le chef du conseil militaire de transition retire 600 soldats dans la zone des trois frontières.
Quelle est l'urgence au niveau du Tchad qui fait qu'on a besoin aussi rapidement de soldats supplémentaires pour pouvoir compléter le rang d'ici?
En RDC, 5 morts dimanche à Kisangani lors de l'arrestation d'un militaire accusé de viol. Poursuite des évacuations à Kaboul, Joe Biden n'exclut pas de prolonger la présence militaire américaine au-delà du 31 août. La tempête Henri a touché terre dans le nord-est des États-Unis après avoir fait au moins 20 morts et plus de 100 Américains privés d'électricité. Dans des minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Le chef de la junte militaire au Tchad a promis samedi des actions concrètes en faveur des groupes politico-militaires lors de l'installation du comité technique spécial relatif à leur participation au dialogue national inclusif devant conduire aux premières élections depuis la mort d'Idriss Déby Itno. Notre bonne foi sera traduite par des actions concrètes qui seront prises en matière d'amnistie, de libération des prisonniers de guerre, de restitution des biens et de réinsertion socio-professionnelle suivant un calendrier précis à définir, a assuré Mahamat Idriss Déby Itno. Le dialogue national inclusif doit se tenir en novembre et décembre et vise, selon le gouvernement, à rassembler tous les Tchadiens pour former un pays apaisé. Un comité d'organisation du dialogue national inclusif a été nommé la semaine dernière, avec notamment pour vice-président Salé Kevzabo, principal opposant au régime de l'ex-président tchadien.
En République démocratique du Congo, un soldat a tué un homme dont il voulait violer la fille avant de tuer trois autres personnes avant d'être lui-même abattu. Les détails avec Rosine Munezero.
À Kisangani, la plus grande ville du nord-est de la RDC, un sergent a tué dimanche par balle deux soldats et un civil qui étaient envoyés pour l'arrêter. Il avait déjà tué un papa qui s'était interposé pour l'empêcher de violer sa fille, a déclaré le colonel Gérard Bossangué, chef adjoint de la police de la Chopo. Sur ordre des autorités de Kinshasa, la police et l'armée ont utilisé un mortier pour tuer ce militaire qui détenait deux armes de guerre avec cinq chargeurs garnis et refusait de rendre le corps de la victime, a expliqué le colonel Bossangué. Par ailleurs, ce matin, dans une affaire distincte qui a provoqué des tensions dans un quartier populaire de la ville, un policier encerclé à l'intérieur du poste de police par des manifestants chauffeurs de taxi-moto a tué un jeune homme pour s'échapper. Il est aux arrêts, a indiqué l'officier. Le 11 août, un soldat congolais avait tué par balle deux officiers qui s'opposaient à l'embarquement de son épouse dans un véhicule militaire à Beni, dans l'est de la RDC, où des opérations militaires sont menées contre des groupes armés.
Toujours en RDC, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a déploré une détérioration continue de la situation à Beni, dans le Nord Kivu. Durant la première quinzaine d'août, au moins 27 civils ont été tués dans cette zone.
Au Nigeria, 15 élèves kidnappés en juillet dans l'état de Kaduna ont été libérés. Leurs familles ont payé une rançon. Les détails avec Claire Morez-Dubourg.
15 élèves ont été libérés l'année dernière après le versement d'une rançon, a indiqué le révérend Joseph Yayab, qui représente les parents du lycée, sans communiquer sur le montant. 65 de nos élèves sont toujours aux mains des bandits et nous travaillons à leur libération, a-t-il ajouté. Les autorités locales sont opposées au versement de rançons et menacent de jeter en prison ceux qui payent. Le 5 juillet, des hommes armés avaient envahi un pensionnat à Chikun dans l'état de Kaduna et enlevé 121 élèves. Seuls 56 d'entre eux ont été libérés ou ont pu échapper à leurs ravisseurs. Cet enlèvement s'inscrit dans une série de kidnappings menés par des groupes criminels appelés bandits qui terrorisent des populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Récemment, ces groupes criminels se sont lancés dans des attaques visant des écoles et des universités pratiquant des enlèvements de masse. Selon les Nations Unies, depuis décembre, environ 1000 élèves et étudiants ont été kidnappés au Nigeria.
Le chef du principal parti d'opposition tanzanien, Freeman Mbowe, qui est jugé pour terrorisme, a affirmé lundi devant le tribunal avoir été torturé en détention et avoir enregistré des déclarations sous la contrainte, a déclaré son avocat. Le procès doit être transféré devant la haute cour, mais aucune date n'a été fixée pour une nouvelle audience. L'homme de 59 ans est accusé de financement du terrorisme et complot terroriste. La défense a déclaré avoir déposé une requête demandant l'abandon des charges et l'annulation du procès, accusant implicitement la présidente Samia Sulu Hassan de s'être mêlée de l'affaire. Freeman Mbowe est en détention depuis le 21 juillet avec d'autres responsables du parti Tchadema après avoir appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. Des victimes de massacres commis dans les années 1980 par le régime de l'ancien président Robert Mugabe seront exhumées et à nouveau enterrées selon la coutume, a déclaré samedi le gouvernement du Zimbabwe. L'actuel président Emmerson Mnangagwa était alors ministre de la Sécurité, accusé d'avoir été l'un des principaux artisans de la répression sanglante. Entre 1983 et 1984, environ 20 000 civils, alors considérés comme des dissidents, ont été tués dans la région du Matabeleland, c'est dans le sud-ouest. L'opération avait été baptisée Gukulaundi, littéralement séparer le bon grain de l'ivraie en langue shona. En Tunisie, arrestation, interdiction de voyage et assignation à résidence visant magistrats, députés et hommes d'affaires. La purge anticorruption enclenchée par le président Kais Saied suscite inquiétude et crainte d'un recul des libertés en Tunisie. Depuis sa décision de suspendre le Parlement pour un mois et de limoger le Premier ministre Hichem Mechichi, le président tunisien n'a toujours pas nommé de nouveau gouvernement ni dévoilé sa feuille de route.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des milliers de personnes qui tentent de fuir l'Afghanistan sont toujours bloquées à l'aéroport de Kaboul, où de difficiles opérations d'évacuation se poursuivent. Les talibans mettent en garde contre une extension de la présence américaine. Le point avec Abdulrahman Dia.
Les talibans ont prévenu qu'ils n'accepteraient pas de prolongation des évacuations après le 31 août, date limite fixée par Washington pour le retrait définitif de ses forces d'Afghanistan. Si les États-Unis ou le Royaume-Uni demandent plus de temps pour poursuivre les évacuations, la réponse est non, ou il y aura des conséquences, a déclaré leur porte-parole Suhail Shaheen. Le président américain Joe Biden avait ouvert la porte à un maintien des soldats sur place au-delà de cette date. Pour accélérer les évacuations, les États-Unis ont réquisitionné des avions de compagnies privées qui aideront au transport vers des pays tiers à partir du Qatar ou les Émirats arabes unis. Des milliers de personnes ont déjà été exfiltrées à bord d'appareils dépêchés par les pays occidentaux. Selon la Maison-Blanche, depuis le 14 août, environ 25 100 personnes ont été évacuées d'Afghanistan à bord d'avions militaires américains et des pays alliés.
Avec le retour des talibans au pouvoir à Kaboul, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré lundi vouloir éviter que des flux supplémentaires de réfugiés n'arrivent en Europe. Aux États-Unis, la tempête Henri a été rétrogradée en dépression tropicale après avoir perdu de sa force sur la côte est. Elle a tué des dizaines de personnes et provoqué des pluies torrentielles, des dégâts matériels et des coupures de courant qui ont affecté plus de 100 000 personnes. Le point avec Nanit Talani.
Le Centre national de surveillance des ouragans relève que Henri est quasi stationnaire et que les vents ont été réduits à 48 km/h en baisse par rapport aux 120 km/h attendus. Ainsi, toutes les alertes ont été levées. Dans le Tennessee, dans le sud-est, une vingtaine de personnes, dont des enfants, ont été tuées et des dizaines sont portées disparues dans de graves inondations. Des maisons et des voitures ont été détruites et les opérations de sauvetage se poursuivent. Dans le nord-est, le gouverneur du Rhode Island, Dan McKee, fait aussi état d'importantes inondations dans certaines zones, mais aucun blessé n'a été signalé. Dans le Connecticut, des arbres sont tombés sur certaines maisons. Dans le New Jersey, des inondations ont conduit les services d'urgence à secourir 86 personnes, dont 16 enfants coincés dans des voitures submergées. Plus de 400 vols ont été annulés à Newark et New York. Le président Joe Biden appelle à la prudence. Il conseille d'avoir des provisions, y compris des médicaments, de la nourriture, de l'eau et des radios avec batterie en cas de plus longue coupure de courant.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nanit Talani.
Au Nigeria, plusieurs agriculteurs de la Benoué, cœur agricole du pays, abandonnent leurs fermes à cause des attaques et des enlèvements qui ont des répercussions désastreuses sur les récoltes et le coût des denrées alimentaires. En juin, l'inflation est montée à 21,83%. L'Agence régionale de gestion des urgences met en garde contre le risque de pénurie alimentaire face au retour improbable des agriculteurs. La région de Benoué produit de l'igname, du riz, des haricots, du maïs et fournit 70% du soja du Nigeria, ce qui lui vaut le surnom de grenier alimentaire de la nation. Le secrétaire général de l'OPEP, Mohamed Barkindo, est en visite de 2 jours au Congo-Brazzaville, quatrième producteur d'or noir au sud du Sahara. M. Barkindo doit rencontrer plusieurs officiels, dont le chef de l'État, et visiter au moins une plateforme au large de Pointe-Noire, la capitale économique. Les réserves pétrolières du Congo sont estimées à 2,9 milliards de barils, avec une production de 336 000 barils par jour, assurée à 68% par le groupe français Total. Pour terminer, en Tanzanie, la société britannique pétro-gazière Aminex a reçu une extension de 2 ans pour sa licence gazière Ruvuma-Pesa. Aminex pourra ainsi forer son puits d'exploration Tikumba 1 au troisième trimestre de l'an prochain et conclure des négociations sur les conditions de partage de production de Ruvuma.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. Alia Issa, première para-athlète de l'équipe des réfugiés aux Jeux Paralympiques, dit espérer que son exemple serait suivi par d'autres femmes réfugiées vivant avec un handicap. Ne restez pas à la maison, essayez tous les jours de faire du sport, soyez dehors dans le monde. J'espère être un premier exemple à suivre, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse de son équipe à Tokyo, à la veille donc de l'ouverture des Jeux Paralympiques dans la capitale japonaise. Âgée de 20 ans, Alia Issa est née en Grèce dans une famille de réfugiés syriens et vit toujours dans ce pays. À 4 ans, elle a contracté la variole, une infection qui a endommagé son système nerveux. Elle doit se déplacer en fauteuil roulant et connaît des difficultés d'élocution. Elle n'a commencé à pratiquer le sport que depuis 3 ans et ne s'est spécialisée que depuis 2 ans dans sa discipline paralympique, le lancer de massue. En football, nouveau sacre du CR Belouizdad en Algérie. Déjà sacré champion la saison passée, le club basé à Alger a décroché un nouveau sacre en s'imposant 4-2 sur le terrain de l'USM Alger à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée du championnat. Avec 5 points d'avance sur son dauphin, l'AS Sétif, le Shabab ne peut plus être rejoint. Il s'agit du 8e titre de son histoire, quart de finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, et qui devient la première équipe à conserver son titre depuis l'entente de Sétif en 2012 et 2013. Et puis la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a suscité un tollé sur les réseaux sociaux du pays après des remarques sur les footballeuses à la poitrine plate qui ne serait pas suffisamment attrayante pour pouvoir se marier. Madame Hassan s'exprimait dimanche lors d'une cérémonie au palais présidentiel où elle recevait l'équipe nationale masculine des moins de 23 ans, victorieuse de la Coupe de la CECAFA, la compétition réunissant des sélections nationales d'Afrique de l'Est et centrale. À cette occasion, elle a plaidé pour un meilleur financement du sport féminin, mais aussi déclenché l'indignation en affirmant que beaucoup de footballeuses ne pourraient jamais se marier. Bien sûr, ces déclarations ont déclenché l'indignation d'internautes. Les commentaires de la présidente Suluhu Samia sur les footballeuses est une humiliation pour toutes les femmes, a lancé Catherine Rougué, chef de la section jeunesse du parti d'opposition Chadema et ancienne députée. Elle ajoute que toutes les femmes méritent respect. En Europe, la direction de Liverpool s'oppose au départ en sélection de son attaquant égyptien Mo Salah. Selon Foot Africa 365, comme toute star africaine, Mo Salah a été convoqué par son sélectionneur national pour participer au premier match des éliminatoires du Mondial avec les Pharaons L'attaquant de Reds se faisait une joie d'y participer, sauf qu'il n'en aura peut-être pas la possibilité, affirme Foot Africa. Son club employeur a mis son veto en ce sens, affirme Foot Africa.
C'était les sports de Bagatikoura. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, le chef du conseil militaire de transition a décidé de retirer 600 soldats sur 1200 déployés en février dernier dans la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans le cadre de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Une décision diversement appréciée par les Tchadiens. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Il ne s'agit en aucun cas de remise en cause de notre présence dans le Sahel. Nous sommes toujours déterminés à rester comme une force avant-gardiste de la lutte contre le terrorisme.
Abdramane Koulama, la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, justifiant la décision des autorités de N'Djamena de réduire de moitié l'effectif de contingent tchadien mobilisé en février dernier dans les frontières de ces trois pays de la sous-région. L'artiste musicien Rice Kim estime que rien ne peut justifier une telle décision en cette période de pré-transition.
On a estimé que ce nombre était celui qui pouvait assurer la sécurité et faire face aux djihadistes. Quelle est l'urgence au niveau du Tchad qui fait qu'on ait besoin aussi rapidement de soldats supplémentaires pour pouvoir compléter le rang d'ici? S'il y a une prise de conscience et qu'on voudrait changer les choses, au moins on rapatrie l'ensemble du contingent pour faire comprendre que voilà, même nous, nous ne sommes pas encore capables de nous protéger contre le terrorisme et nous ne voulons pas disperser nos forces. Donc l'intention n'est pas de voiler. Mais l'histoire nous le dira.
Pour Ali Haroun Katir, ancien officier supérieur de l'armée tchadienne passé à l'opposition, le retrait de cette troupe est une stratégie militaire qui n'aura aucune conséquence dans la lutte que mène le chef d'état du G5 Sahel.
Il ne faut pas penser qu'il y a que les armées tchadiennes qui vont vraiment faire le gendarme de l'île. Il faut qu'on efface ça sur la tête, quoi. Sauf que nous, on a vraiment montré notre force sur le terrain. C'est pour ça que les gens focalisent sur nous. Et sinon, tout le monde a droit vraiment de contribuer. Au moment où on en parle, on a un grand problème sur le lac. On a droit de vraiment perdre des hommes importants. On a besoin de vraiment retirer pour venir vers autour de la Tchad, là où il y a des dangers.
Pour Abdramane Koulama, la porte-parole du gouvernement, le redéploiement de ces soldats tchadiens est un renforcement stratégique.
Dans une première phase, nous avons envoyé 1200 hommes et quand on devrait former des bataillons, on a constaté que nos forces étaient beaucoup trop importantes. Donc c'est en accord avec le commandant de la force G5 Sahel que nous avons décidé de redéployer une partie de nos forces qui était en surplus. Ensuite, nous avons adapté nos forces par rapport à la réalité du terrain parce que c'est une guerre asymétrique qui nécessite un déploiement qui soit plus stratégique, qui est adapté au terrain. Donc, par rapport à ça, nous avons voulu laisser une force qui soit plus mobile et capable d'anéantir les groupes terroristes.
Le président de l'association Jeunesse Consciente de l'Avenir, Mahamat Adam Abdallah, appelle le peuple tchadien à soutenir unanimement la décision du président du Conseil militaire de transition.
Je pense que lui qui a toujours pris part dans toute l'histoire de la sécurité de la sous-région, il connaît un peu les raisons. Nous appelons nos frères tchadiens de faire confiance à la décision du président de la transition. C'est une réponse purement militaire.
L'envoi de ces troupes du vivant d'Idriss Déby Père n'avait pas fait l'unanimité au Tchad. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le G5 Sahel face à la recrudescence des attaques djihadistes. Avec l'annonce en juillet dernier d'une réorganisation de la présence française dans la région, beaucoup s'attendent à la montée en puissance de la force composée de 5 pays du Sahel. Mais l'annonce de la réduction de moitié de l'effectif tchadien dans la région des trois frontières pose la question de l'avenir du G5 Sahel, alors que les groupes armés multiplient les attaques dans le nord du Burkina, au Niger et au Mali. Quelle stratégie face aux djihadistes au Sahel? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Mali, sont plus de 182 000 candidats à passer les examens du baccalauréat cette année. Les épreuves ont débuté ce lundi 23 août sur toute l'étendue du territoire national.
Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
C'est dans une atmosphère bon enfant que les 900 candidats du centre Massamakan Diabaté de Bakodji-Koroni, en commune 5 du district de Bamako, ont débuté les épreuves du baccalauréat. Selon le président du centre, Djibril Djourté, toutes les dispositions ont été prises pour que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Ça se passe très bien, vraiment très bien. L'ambiance est bon enfant, il n'y a pas de problème. Les élèves viennent tranquillement parce que le dimanche ou bien le week-end déjà, on avait affiché une liste au sein de l'école ici. Alors ils sont venus consulter la liste, ils savent déjà dans quelle salle ils se trouvent. Donc le matin, quand ils sont arrivés, ils se sont dirigés vers les salles. Donc il n'y a pas eu de problème.
Ce centre qui compte 30 salles, à raison de 30 élèves par salle et 2 surveillants, tout se déroule dans le calme, à l'image de cette salle où les élèves de la terminale science sont concentrés sur le sujet d'économie, un sujet qu'ils jugent abordable. Abdul Wahab Konaté, candidat.
Bon, oui, il est abordable. À la limite, il était un peu fascinant.
Développe-nous, voilà, comment est-ce que
c'est fait. Même temps, c'est les répétitions, c'est les mêmes sujets qu'on fait au cours de l'année. Il faut juste répéter à la maison et ça va. Le programme est assez vaste et en même temps, je faisais des cours de soutien à la maison. Donc, en général, ça va un peu. Du moins, mon cas, moi.
Les perturbations liées aux nombreuses grèves et à la pandémie du coronavirus n'ont pas eu d'impact sur les programmes scolaires, à en croire Ramatoulaye Moulay Haïdara, candidate.
Le sujet était abordable, mais comme toujours, on ne peut pas encore se prononcer parce que les autres épreuves ne sont pas encore passées. C'était juste la première matière, même si c'était le coefficient le plus élevé. On effectue nos cours comme d'habitude, seulement en respectant les gestes barrières et puis la distanciation sociale.
Si ces facteurs n'ont pas eu d'incidence sur le programme scolaire, ils ont quand même retardé la tenue des examens. Le Mali est parmi les derniers pays de la sous-région à organiser les examens de baccalauréat pour ses 184 427 candidats. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Sandaga est le nom d'un grand marché de Dakar, la capitale sénégalaise. Il existe un marché appelé marché malien où la plupart des commerçants vendent le bazin teinté à la main au Mali. Sur ce marché, il y a une parfaite coexistence entre commerçants maliens et sénégalais. Mais à cause de la Covid-19, les recettes quotidiennes ont connu une énorme baisse, disait-il. Une correspondance à Dakar, Dodia Ranama.
Ici, au marché malien de Dakar, les commerçants sénégalais et maliens ont les mêmes droits commerciaux. Ensemble, ils expriment leur mécontentement face à la rareté de la clientèle due au Covid-19. Morwad est un commerçant sénégalais assis dans son magasin de détail. Pas de clients pour le moment. Il joue avec son téléphone parce que Covid est passé par là.
Ici, on vend des bazins, bazins teinture venant du Mali. On vend des jazzers, on vend des bazins russes et d'autres produits. Et avec le Covid là, ça nous fait beaucoup de mal parce qu'on ne voit plus les clients. Ici, on s'attendait avec les Gambiens, les Bissau-Guinéens, les Guinéens qui viennent ici prendre bagage et partir aller les revendre. Mais depuis la période du Covid, on ne voit plus les clients. C'est pour cela que le business là, maintenant, c'est un peu dur, quoi.
Le président du marché malien, Sinani Baba Traoré, alias Bayni, vendeur de bazins, abonde dans le même sens. Mais il a également déploré les conflits d'intérêts anormaux sur le marché de certaines personnes qui a gâché le commerce.
À nos jours d'aujourd'hui, les problèmes de coronavirus, là, ça fatigue tout le monde aujourd'hui. Le marché n'est pas comme avant. Bon, on ne peut pas dire qu'on ne gagne pas, mais ce qu'on doit gagner actuellement, on ne peut pas gagner ça. Parce que les produits que tu achètes jusqu'à 50 piles comme ça, si tu vois que tu vends en raison de 2500 piles comme ça, tu sais, en matière de commerce, ça, c'est pas bon. Parce que les vendeurs, il y a beaucoup de vendeurs aujourd'hui. Il y a des gens qui cherchent bénéfices, il y a des gens aussi qui ne cherchent même pas à comprendre et ils font n'importe quoi en matière de commerce. C'est ça qui nous fatigue.
Bayni n'a pas manqué de mentionner les difficultés qu'il rencontre avec les douanes sénégalaises lorsqu'il arrive avec des marchandises en provenance du Mali.
Bon, le dossier vient du Mali. Nous, on a des transiteurs ici. c'est les transiteurs qui nous font transiter nos produits jusqu'au marché. Mais souvent, les transiteurs viennent quand ils amènent le coupon, souvent à 1000 francs, ils viennent dire que les coupons peuvent venir jusqu'à 2000 francs, 2500. Parce qu'ils vont dire que les douaniers aussi vont augmenter souvent. Ça, quand même, ça nous dérange beaucoup.
Pourquoi au Sénégal, on aime beaucoup plus les bazins teintés dans votre pays, le Mali?
On n'a pas l'usine de bazin au niveau du Mali, mais la teinte là, au niveau du Mali, l'eau du Mali est différente de l'eau du Sénégal. C'est pour cela.
En raison de la taxe douanière, les prix des marchandises ont augmenté malgré la rareté de la clientèle. Adi Diop est une cliente sénégalaise qui est venue faire ses courses et a constaté cette augmentation des prix des marchandises.
C'est cher, c'est pas facile du tout. On négocie pour acheter, mais on a augmenté toutes les choses. Avant, c'était moins cher, mais maintenant, c'est cher. On n'est pas encore acheté, on est en train de discuter sur le prix. Ce qu'on veut pour notre mariage, on le vend ici. Il vend des choses jolies. C'est le prix qui s'imposait, mais c'est joli, vraiment.
Les commerçants sénégalais des Maliens, du marché malien de Dakar, la capitale sénégalaise, n'ont pas manqué de solliciter l'aide des autorités sénégalaises et maliennes en cette période de Covid-19 qui leur a causé d'énormes pertes dans leur activité commerciale. Nama Diarra, Dakar, VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
L'administration Biden s'engage à évacuer tous les Américains qui souhaitent quitter l'Afghanistan alors que la situation à l'aéroport de Kaboul devient de plus en plus tendue. Le gouvernement américain a demandé aux compagnies aériennes privées de soutenir ces opérations. Un reportage d'Arash Arabassadi relaté par Nathalie Barge.
Dimanche a été une nouvelle journée chaotique pour évacuer les Américains et leurs alliés, alors que les soldats aidaient les familles à monter à bord d'un avion militaire sur le tarmac de l'aéroport à Kaboul. Le président Joe Biden a réaffirmé l'engagement des États-Unis envers les Américains et leurs alliés qui sont encore en Afghanistan.
Tout Américain qui veut rentrer chez lui va rentrer. Nous allons également évacuer les citoyens de nos alliés de l'OTAN.
Pendant la nuit, des soldats allemands ont commencé à décharger deux hélicoptères dans le cadre d'un effort international croissant pour évacuer la zone autour de la capitale afghane. La sénatrice républicaine et vétérante Joni Ernst a déclaré à l'émission This Week de la chaîne ABC que le président a mis du temps à engager les partenaires américains.
Le président Biden a malheureusement tout gâché. À l'évidence, avec notre communauté internationale, pour un tel retrait hasardeux, si nous avions travaillé avec ses alliés, ses pays partenaires, cela aurait été beaucoup plus facile.
L'armée américaine a signalé qu'une Afghane a donné naissance à une petite fille à bord d'un vol d'évacuation vers l'Allemagne. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré à ABC que Joe Biden, sans disposer de bonnes options, a fait de son mieux en fonction des renseignements qui lui ont été donnés.
Le président a écouté notre présentation. Encore une fois, il a mené un processus très rigoureux et réfléchi et il a pris une décision et je soutiens cette décision.
Ce lundi, le Pentagone a annoncé que 16 000 personnes ont été évacuées de l'aéroport international de Kaboul au cours des dernières 24 heures. Washington poursuit les pourparlers avec les dirigeants talibans pour assurer un passage sûr, mais la menace du groupe État islamique en Afghanistan, qui veut perturber les activités américaines, vient compliquer davantage les opérations sur le terrain.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et
c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Manelakis a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.